Bonjour, Mme Beaulieu.
Bonjour, M. Beauregard.
Vous êtes titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés à l'Université de Sherbrooke et vous avez dirigé une étude qui a été commanditée ou commandée par l'Office des personnes handicapées du Québec sur un sujet qui n'avait pas jusqu'à maintenant souvent été traité.
Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, au Québec, on a maintenant un plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés depuis 2010. On en a eu un premier de 2010 à 2017 et un second de 2017 qui se termine dans les prochaines semaines. Et dans ce second-là, l'OPHQ avait pris un engagement de financer un projet de recherche sur la maltraitance envers les aînés ayant des incapacités, projet que j'ai eu le plaisir de mener avec ma co-chercheure Hélène Carbonneau, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières.
Maintenant, vous avez abouti. L'étude a été publiée il y a quelques semaines.
Oui, vous avez raison. On a publié l'étude, le rapport complet en janvier, mais qui est assez exhaustif, là, presque 200 pages. Mais on a publié aussi une synthèse dernièrement, je pense, qui est plus accessible, donc autour d'une dizaine de pages. Et notre volonté, c'est vraiment de rendre ce rapport-là le plus connu possible, parce que, comme vous le disiez, c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas beaucoup penché, la question de la maltraitance envers les aînés ayant des incapacités. Ce qu'on se rend compte, c'est que dans la recension des écrits, la plupart du temps, quand on parlait d'incapacité, on parlait de l'incapacité comme étant un facteur de risque à la maltraitance, donc un facteur de risque supplémentaire, en voulant dire par là que les gens qui avaient des incapacités avaient peut-être malheureusement un peu plus de risque que les autres d'être maltraités. Mais une fois qu'on avait dit ça, on n'apprenait rien sur l'expérience qu'ils avaient vécue et rien non plus sur les services qu'ils avaient reçus. Donc, nous, on a vraiment voulu donner la parole à des personnes ayant des incapacités qui avaient vécu de la maltraitance dans les 5 dernières années pour vraiment recueillir leur expérience.
Alors, dans un premier temps, vous avez essayé de faire un portrait de ce qui existait déjà, des quelques recherches qui étaient un peu plus pointues et il était question des aînés qui avaient des incapacités, mais il n'y avait pas grand-chose, comme vous le dites là-dessus, mais après ça, quand vous avez commencé votre étude, comment vous êtes-vous pris pour définir un échantillon, puis essentiellement donner une voix à des gens qui n'en ont pas, ou peu?
Exact. Bien, je vous avoue que c'était un projet de recherche qui a posé des défis de méthodologie, entre autres de recrutement, mais ça a été, ça fait partie du projet en soi là, d'avoir eu à passer à travers ces étapes-là. Donc, nous, le partenariat qu'on avait établi dès le départ était avec un CIUS, donc Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, celui de l'Estrie, pour être plus particulier. Donc, on a pu travailler avec les directions de différents services, donc les services aux personnes âgées, les services aux personnes ayant des incapacités, donc et aussi les commissaires aux plaintes et à la qualité des services. Donc, ces différentes directions-là, en partie, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, en particulier, en fait, nous a beaucoup aidés, mais on a aussi fait du recrutement par des affiches. On s'est mis aussi dans des partenariats, parce qu'on avait un groupe conseil de différents organismes qui représentent soit des personnes qui ont vécu de la maltraitance ou des personnes qui ont des incapacités. Donc, on a utilisé une multitude de stratégies pour composer notre échantillon, et ça prenait des gens, évidemment, qui étaient prêts à relater cette maltraitance qu'ils avaient vécue dans les 5 dernières années. On a eu le plaisir d'en rencontrer 11 personnes avec des entrevues en profondeur, et ces gens-là, un certain nombre avaient vécu 2, voire 3 situations de maltraitance dans les 5 dernières années. Donc, ça nous a donné 18 situations qu'on a pu documenter, ce qui est quand même très riche.
Oui, parce que c'est certain que, malheureusement, un des aspects les plus... je dirais, malheureux ou qu'il faut dénouer de cette situation-là, c'est que souvent, il n'y a pas de façon de dénoncer la maltraitance. C'est souvent une souffrance qui est faite en silence là, et qui est un peu évacuée.
Alors, bien, vous avez raison.
C'est pas facile de leur donner une voix. Donc, d'avoir 18 situations sur lesquelles vous avez pu plancher, c'est déjà beaucoup.
C'est déjà beaucoup, considérant que ça s'était jamais fait. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir un échantillon plus grand, mais quand on a vu la richesse, et je vous dirais, M. Beauregard, la générosité des gens qui nous ont reçus, parce que les gens ils ont pris cette recherche très au sérieux. Il y a une personne, entre autres, avec qui on a passé plus de 2 heures et demie, parce qu'elle tenait vraiment à nous relater 3 situations qui étaient tout aussi importantes les unes que les autres. Et on lui avait dit, au bout d'une situation, écoutez, c'est déjà tellement riche que vous nous avez donné, on peut s'arrêter parce que la personne était souffrante. Mais non, elle a voulu aller jusqu'à la fin. Et leitmotiv de plusieurs des participants, ça a été de dire « Je vous raconte ce que j'ai vécu pour essayer de travailler à prévenir ces situations-là pour pas que ça arrive à d'autres. »
Tout à fait. Et là, ça vous a permis de dégager quelques vecteurs. D'abord, où maltraite-t-on? Est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus susceptibles d'être des foyers de maltraitance, si je peux utiliser ce mot-là?
Oui. Bien, c'est intéressant que vous me posiez cette question-là, parce que quand on faisait la recension des écrits, on se rendait compte que souvent, ce qui avait été documenté, c'était soit des milieux d'hébergement, ou sinon, quand c'était à domicile, c'était de la maltraitance de la part de proches aidants. Alors que nous, dans notre projet, il est sorti autre chose. En fait, plusieurs situations qui nous ont été relatées se sont passées au domicile, mais ce n'était pas le fait de proches aidants. C'était beaucoup plus des situations de maltraitance dans le cadre de la dispensation de services. Donc, soit des gens du réseau public, des intervenants, soit des gens du réseau privé ou même des gens d'organismes communautaires qui avaient pu faire de la maltraitance envers les aînés qui vivaient à domicile. Et ce qui était troublant, c'est que le fait que ça soit passé dans un contexte où les gens recevaient des services, les gens se sentaient à la fois dans un besoin de ces services-là, parce que plusieurs en avaient besoin pour continuer à avoir une qualité de vie, mais en même temps souhaitaient que la maltraitance se termine, ce qui posait énormément de défis, entre autres, quand venait le temps, comme vous disiez il y a quelques secondes, de signaler, d'en parler à quelqu'un.
Oui, c'est un dilemme horrible. La personne dont on dépend nous fait du mal. Alors, comment couper le lien? Qui maltraite? Est-ce que vous avez été capable de dresser le portrait des personnes qui sont susceptibles d'être violents, de faire de la maltraitance? Parce qu'il faut, en fait, sortir ces gens-là du système. Il faut être capable de ne pas les engager ou de ne pas les embaucher au début.
Bien, il y a toutes sortes de profils, mais je vous dirais ce qui a été frappant pour nous, ça a été de se rendre compte que certains professionnels ont des attitudes, ou certains intervenants, en fait, ont des attitudes comme quoi c'est eux qui savent et que la personne qui reçoit les services doit un peu travailler dans le sens qu'eux le souhaitent. Alors que ça nous a amené à réfléchir beaucoup sur des enjeux communicationnels, puis sur la place aussi qui est donnée à la parole des personnes qui ont des incapacités pour être capables d'exprimer leur situation. Donc, ça nous a amené aussi dans un autre temps à voir comment, une fois que la situation a été signalée dans les différents services, quand on a des cadres, que ce soit des cadres intermédiaires ou des cadres supérieurs, qui réagissent puis qui changent rapidement l'intervenant et qui s'organisent pour pas que la personne perde ses services, c'est très, très, très aidant. Et en général, ces cadres-là, bon, on sait qu'ils vont faire une intervention auprès de la personne, que la personne soit bénévole, que ce soit une personne salariée, ben, il va y avoir une rencontre. Et on s'est rendu compte que dans certaines situations, il y avait des employés peut-être qui avaient déjà été problématiques dans d'autres situations. Fait que ça venait rajouter malheureusement une tache noire de plus à leur dossier. Quand je dis malheureusement, c'est pas tant pour l'employé, mais vraiment malheureusement pour les différentes personnes aînées qui avaient eu à subir la maltraitance qui a été subie. Et une des choses que j'ai peut-être oublié de vous dire depuis le début de notre conversation, c'est qu'on avait, nous, comme mandat, de se pencher plus particulièrement sur la maltraitance psychologique, mais sur la maltraitance matérielle et financière. Et qu'on s'est rendu compte que souvent, les deux vont de pair. Donc, on n'était pas capable vraiment de distinguer l'un de l'autre. Parce que la plupart du temps, quand il y a du financier, il y a aussi eu du psychologique qui l'accompagne.
Bien, c'est une façon d'extirper de l'argent de quelqu'un. Là. Il y a un chantage émotif ou différentes formes de pression. La violence physique est quelque chose qui est plus facile à documenter ou à pointer du doigt, mais des milliers de petites phrases assassines ou d'autres manipulations de ce genre-là, ça, c'est plus long et même souvent pour la victime, à identifier.
Oui, parce que souvent, les gens vont se rendre compte en disant, mon Dieu, c'est donc bien plate ce que l'autre vient de me dire, tu sais, ou c'est donc bien pas responsable, il me parle donc bien bête, ou comment ça se fait qu'il me coupe la parole puis il m'écoute pas. Mais avant que les gens fassent le pas de dire, là, je suis en train de vivre la maltraitance et il faut que ça cesse, il y a souvent un grand laps de temps. Et une des choses que notre recherche nous a permis de voir, puis permettez-moi d'inciter M. Beauregard, c'est vraiment important, c'est que les proches sont en général très aidants. Donc, on sait qu'il peut y avoir de la maltraitance faite par des proches. Là, je vous l'ai dit tantôt, on l'avait vu dans la littérature, mais nous, dans notre recherche, les gens nous disaient, la première personne à qui j'en ai parlé, pour 10 des 11 personnes interviewées, ça a été un proche, une proche, que ce soit des amis, des membres de la famille et tout ça. Et souvent, ces proches-là ont un rôle déterminant pour soutenir la personne dans ses différentes démarches. Et on a même vu des proches qui s'engagent avec la personne à travers toutes les démarches. À un point tel qu'il y a même une situation où, à laquelle je pense, où la personne a été obligée de laisser son travail pour pouvoir accompagner sa sœur dans différentes démarches, tellement c'était important. Donc, moi, je salue le travail des proches et ce que je me rends compte, c'est que souvent, les proches ne se sentent pas outillés, puis peut-être que c'est quelque chose dont on parle pas ou qu'on parle peu, et ça nous a amené dans nos différentes recommandations, entre autres, à dire faisons plus de travail auprès des proches, faisons plus de travail aussi avec les différentes associations de personnes ayant des incapacités pour réussir à rejoindre, sensibiliser, briser le tabou, faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de parler.
Parce que ultimement, il faut qu'il y ait plus de dénonciations de situation, que plus de situations soient corrigées, c'est ça qui est l'aboutissement final. Et souvent, les gens que vous avez interviewés, en ce que je me souviens d'un témoignage en particulier, se plaignaient du fait qu'il y avait beaucoup de petits dépliants et d'organismes qui se disaient prêts à aider, mais ils se renvoyaient la balle puis il n'y avait pas de solution.
Bien ça, écoutez, c'est un autre grand constat de notre recherche, c'est que, bien qu'on dise qu'au Québec, on est fort en coordination, les personnes qui nous ont raconté leur situation, je vais vous dire qu'ils avaient plutôt l'impression par moment de s'être coordonnés eux-mêmes puis d'avoir cogné à de multiples portes. Il y avait trois organismes qui ressortaient un peu plus, là, ou trois types d'intervenants qui ressortaient un peu plus comme étant forts en coordination. Les commissaires aux plaintes et à la qualité des services ont fait un excellent travail. On a en Estrie aussi un organisme communautaire 100% dédié à la lutte contre la maltraitance qui s'appelle Direstrie, qui a fait un excellent travail. Et dans le réseau de la santé et des services sociaux, ce qui nous a été témoigné, c'est certains travailleurs sociaux qui se sont vraiment investis dans le dossier. Fait que ça, c'est comme trois modèles d'intervenants qui peuvent faire une différence et d'accompagner les gens dans leur cheminement.
Tout à fait. Ben, Mme Beaulieu, je vous remercie. On espère que votre rapport de recherche sera lu, épluché et aussi que les recommandations soient mises en application et qu'on puisse constater dans l'avenir que le problème est en train de s'amenuiser.
Merci. Je peux vous dire qu'on a beaucoup d'écoute, puis on ne se gêne pas pour en parler, puis on va continuer.
Bravo. Merci.
Merci à vous, M. Brogan. Au revoir.